Voilà, merci Seigneur. Donc ce matin et pendant plusieurs dimanches, nous allons parler de l'intégrité. Le sujet, c'est vrai que quand on commence une étude sur ne serait-ce qu'un mot, des fois ça nous entraîne bien loin. Hein, et on s'aperçoit que plus on creuse, plus on découvre des choses. Et je voyais encore hier, lorsque je peaufinais un petit peu le message, j'ai retrouvé des choses, j'ai dit, ça suffit, hein, parce qu'on va, on va pas s'en sortir. Parce que c'est un sujet abondant, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et donc, oui, le thème ce matin, c'est l'intégrité. Et donc, aujourd'hui, on va voir eh bien, la force de l'intégrité. La puissance de l'intégrité. L'intégrité vient du latin intergere, c'est-à-dire pur, entier, se dit d'une personne qui est d'une grande honnêteté qu'on ne peut corrompre. Et je regardais une autre définition, état de choses qui n'a pas été altéré. Et je regardais encore un autre dictionnaire, et qui définit le mot intégrité comme honnête, comme une vertu, et puis aussi avec le mot droiture. Je voyage un peu, et je m'aperçois que nos églises en France sont en pleine crise d'intégrité. Peut-être le constatez-vous aussi. Nous constatons beaucoup de mensonges. Mensonges dans les écoles, dans les institutions, les maisons, les affaires, dans la politique, dans les églises. Pourtant, l'intégrité génère une grande puissance. Et elle devrait faire partie intégrale de notre vie. Je crois que être intègre peut nous apporter de grandes bénédictions et en même temps de la puissance. On l'a chanté tout à l'heure, hein, ces mots-là. Et c'est vrai que nous voulons de la puissance. La puissance dans notre vie, la puissance dans notre témoignage. Et c'est vrai que ne pas faire cas de l'intégrité, eh bien, apporte des résultats désastreux. Quelqu'un dit, qui n'est pas intègre se désintègre. Nous avons tous cherché sans doute à avoir du succès, de la réussite. Et souvent nous sommes confrontés à cette chose qui est l'intégrité, sans que nous puissions vraiment nous en rendre compte. Et il faut que cette force d'intégrité, eh bien, soit, j'allais dire, dans une position forte dans notre vie. Et la définition biblique, elle, elle va encore plus loin que, j'allais dire, nos mots que nous utilisons tous les jours. L'intégrité biblique suppose une conduite irréprochable. Et ce sont les faits qui jugent la situation. Ce type d'intégrité va plus loin que seulement le refus de mentir. Mais c'est aussi le refus de décevoir, de voler, de manipuler et de manipuler les autres pour obtenir ce que l'on veut. Une personne intègre est avant tout une personne sincère. me souviens, il y a quelques années, j'avais entendu cela, que ce mot sincère, dans une autre traduction, voulait dire sans cire. Je pense que vous avez vu des meubles anciens, hein, peut-être vous en possédez, vous, peut-être de votre grand-mère ou de votre grand-père, hein. Ces meubles anciens sur lesquels, eh bien, il y a des endroits où il y a des petites parties blanches, où on a bouché les petits trous avec une espèce de pâte. Et à l'époque, eh bien, c'était de la cire. Et on bouchait, on masquait cela pour qu'il n'y ait plus d'aspérosité et que tout cela soit très net et très lisse. Et c'est vrai que, au regard de tout cela, je me suis posé la question, parce que c'est à moi-même que la question m'était posée, est-ce que toi, tu es intègre? Et c'est ce qui a déterminé, bien entendu, cette recherche personnelle et dont je vous fais part ce matin. Et c'est bien entendu cette question que j'ai dû me poser en réalité et dans l'honnêteté de ma propre vie. Est-ce que je suis une personne intègre? Moi, je crois que nous pouvons être intègres. Alors, cela ne veut pas dire que je possède les dons spirituels. Vous pouvez être intègre et ne pas posséder les dons spirituels. Mais vous pouvez être quelqu'un de parole. Je m'adresse, j'allais dire, à ceux de l'Église, à ceux qui ont des responsabilités dans cette Église, vous qui êtes responsable de l'école du dimanche, vous qui apportez de temps en temps le message de la parole de Dieu. Des fois, avoir l'occasion d'imposer les mains aux malades. Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis honnête? Je le répète, nous pouvons marcher dans l'intégrité. Alors certes, je dois bien avouer, parce que moi-même confronté parfois à certaines situations, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un chemin facile. Et c'est pourquoi il nous faut prendre parfois des décisions. Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Est-ce que je vais prendre la décision du compromis? Mais une chose est certaine, c'est que je dois toujours prendre une décision de qualité. Et je suis persuadé que si nous prenons de telles décisions, de bonnes décisions, cela nous amènera à récolter de bonnes récompenses. Comme je le disais il y a quelques instants, chaque jour, de nombreuses occasions de compromettre cette intégrité se présentent. Et comment allons-nous répondre à ces situations qui vont certainement déterminer beaucoup de choses et qui vont faire dire à la fin, est-ce que j'ai agi avec intégrité? Or, la question importante est, qu'est-ce que Dieu a à dire dans ces situations dans lesquelles je suis confronté et dont l'issue doit être l'intégrité? Parce que c'est une question journalière. Oui, si nous marchons dans l'intégrité, nous verrons les grâces, nous verrons les récompenses qui sont promises dans l'Écriture. Et en premier point, nous allons voir la direction de l'intégrité. Et j'ai pris comme verset Proverbe 11 et verset 3, « L'intégrité des hommes droits les dirige. » Alors, ce n'est pas forcément une version seconde. L'intégrité vous conduira. Tout simplement parce que vous aurez choisi de vivre une vie honnête, une vie droite, une vie sincère, sans masque. Je suis persuadé que ces qualités, eh bien, peuvent vous conduire et vous conduira même au milieu des eaux troubles de ce monde. En fait, selon l'Écriture, cela va nous garder de la destruction. Nous avons de nombreux exemples, bien entendu, dans la parole de Dieu, et j'en prendrai simplement un dans Genèse chapitre 20, verset 1 à 6. C'est l'exemple d'Abimélec, où il nous est dit dans la Genèse, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Sarah était une femme d'une très grande beauté. C'était courant à cette époque de prendre une femme pour la mettre dans son harem. Si la femme était mariée, ce n'était pas un problème pour un roi, sans scrupule, de tuer le mari et de s'emparer de cette femme. C'est pourquoi Abraham et Sarah ont court-circuité, j'allais dire, cette éventualité en proclamant que Sarah était sa sœur. Bien entendu, qu'est-ce qui les faisait agir comme ça? Oui, Patrick, il me fait. Ils avaient peur, tout simplement. La peur. Une simple peur. Ah, on dit simple peur.
C'est bon.
C'est vrai que le mari pouvait effectivement être exécuté. Et ils avaient peur, bien entendu, du roi Abimélec, qui lui déjà avait jeté son dévolu sur Sarah. Il a pensé qu'elle était seule, et il l'a donc embarquée dans son palais. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et on voit que au verset 3 du chapitre 20 de la Genèse, hein, il nous est dit, « Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Autrement dit, plus simplement, Dieu est en train de dire à Abimélec, tu es un homme mort si tu continues dans cette voie. Je ne sais pas si vous êtes sensible aux rêves ou aux songes, mais là, je crois qu'Abimélec a dû se réveiller en sursaut, hein. Il a dû être étonné de la parole de Dieu. Et pour preuve, c'est que, hein, au verset 4 et 5, il dit, Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu même périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec intégrité de cœur. » C'est-à-dire, un cœur pur et avec des mains innocentes. En fin de compte, Abimelech est en train de dire, Seigneur, je ne savais pas. Tout cela, je l'ai fait avec intégrité de cœur. Hein. J'enlève ma voisine. Hop. Voilà. Parce qu'elle me plaît. C'était ça dans le temps. Eh oui. Et qu'est-ce que Dieu va répondre à Abimelech ? Abimelech qui, lui, se croyait dans son bon droit, puisque c'était la coutume, c'était l'habitude en ce temps-là. Et Dieu à nouveau va parler à Abimelech. Hein, il lui dit encore en songe, « Je sais que tu as agi avec intégrité de cœur, c'est-à-dire avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. » En traduction courante pour nous, Dieu lui dit, Abimelech, je sais que tu ne savais pas que cette femme était mariée. J'ai vu ton cœur et je reconnais que tu as agi avec intégrité. C'est pourquoi je t'ai arrêté pour que tu ne fasses pas une erreur fatale. Je me dis, quelle grâce, vous ne trouvez pas? Quelle grâce pour Abimelech, quelle grâce pour Abraham, hein, parce qu'on l'aurait certainement exécuté purement et simplement, et une grâce pour Sarah qui n'a pas fini dans un harem et dans le lit du roi. Je me dis, c'est puissant ça, non? Vous ne trouvez pas? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui encore d'entendre la parole de Dieu, même en songe? Est-ce que Dieu nous parle de temps en temps sur notre couche? Essayez d'y penser un peu. Des fois, Dieu ne nous dit-il pas, mais dis donc là, dans telle situation, n'aurais-tu pas mal agi? Ou peut-être que vous avez du mal à trouver le sommeil et que une pensée vous traverse l'esprit. Alors peut-être vous dites, j'ai agi avec intégrité. Mais on peut se tromper. Non? On peut se tromper. Quand on ne sait pas. On peut se tromper. Et pourtant, comme on dit aujourd'hui, être de bonne foi. Hein? Être de bonne foi. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Mais si nous avons agi avec bonne foi, et moi je dirais avec intégrité, Dieu qui sonde les cœurs, Dieu qui sonde nos cœurs, sait que nous avons agi avec intégrité, ou pas. Et là, dans le cas d'Abimelech, Dieu l'a arrêté pour ne pas faire une erreur. Cela veut dire que si nous sommes intègres, nous ne pouvons pas manquer la volonté de Dieu. Et cela, c'est quelque chose qui est important. Cela ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant, bien au contraire, hein, et de faire ce que nous pensons, avec l'aide de Dieu. Et je dirais même, si vous vous êtes trompé, eh bien, soyez certain que Dieu s'oblige lui-même à intervenir pour vous donner la direction claire avant que vous finissiez mal. Et je crois que cela doit nous aider, frères et sœurs, parce que nous faisons partie du plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu et nous ne voulons pas manquer le plan de Dieu. Nous ne voulons pas aller à la ruine. Il est vrai que lorsque nous croyons avoir reçu une direction de Dieu et que cela se fasse dans la paix de notre cœur, alors, bien entendu, agissez, mais agissez avec intégrité. Dieu, lui, il est fidèle et il saura intervenir au bon moment si vous vous êtes trompé. Moi, je me dis, à ce stade-là, c'est merveilleux. D'un autre côté, si vous mentez, si vous essayez de dissimuler la vérité, si vous essayez de tromper, alors, avertissement. Faites attention. Dieu n'est pas dans l'obligation de nous avertir de notre ruine soudaine et peut-être imminente. Vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Si nous avons agi avec probité, avec intégrité, Dieu saura nous dire « halte là ». Je sais que tu t'es trompé, tu as fait une erreur, je te dis que tu es dans l'erreur. Reconnais ton erreur, ne va pas plus loin. Et cela, c'est quelque chose qui me paraît important. Mais si vous essayez de vous détourner de la voix de Dieu, si vous faites le sourd à la voix de Dieu, alors attention, vous êtes en grand danger. Et je le répète, Dieu n'est pas dans l'obligation de vous avertir d'une ruine soudaine ou des conséquences de votre désobéissance à l'avertissement de Dieu. Maintenant, le deuxième point que nous allons voir, c'est la stabilité par l'intégrité. Et ce sont des paroles qui sont adressées à Salomon, 1 Roi, chapitre 9, verset 4-5, qui nous dit « Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Là, des paroles qui sont intéressantes ce matin. Car l'intégrité ne fera pas seulement nous faire comprendre la volonté de Dieu et de nous guider, mais elle nous donnera aussi la force de réalisation. Quand on regarde ce que Dieu est en train de dire à Salomon, si tu marches en ma présence, il y a déjà une condition. savez, quand vous signez des contrats, quel que soit le genre de contrat que vous signez, il y a toujours des conditions. Et souvent, les conditions sont écrites en petites lignes. Vous n'avez pas remarqué ça? Il faut avoir une grosse loupe hein, pour voir les conditions. Hein? Mais avec Dieu, il n'y a pas besoin de loupe. Il dit clairement les choses. Il dit, si tu marches hein, en ma présence, si tu marches, bien entendu avec ma présence, mais avec une autre condition, avec intégrité de cœur. Hein, c'est une version anglaise qui dit cela. Et à votre avis, l'intégrité, elle va se manifester comment ? Avec le cœur ? Ou avec le cerveau. À votre avis ?
Dans les fêtes.
Le cœur.
Dans les fêtes.
Le cœur ?
Bah oui.
Oui. C'est pour ça, si tu agis avec intégrité de cœur. Donc c'est pas le cerveau qui nous dit. Ah, mais si tu fais ça, ça sera plus avantageux que si tu fais ça. Mais le cœur, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Et c'est important. Là. Parce que l'intégrité, ce n'est pas le produit de notre intelligence, frères et sœurs. Cela va bien entendu de notre caractère, mais surtout de le caractère de notre cœur. C'est dans les profondeurs de notre être, cela. Et Dieu dit la chose suivante, si tu marches dans ma présence, si tu marches avec intégrité de cœur, avec droiture, alors j'établirai ton trône dans ton royaume. Dieu est en train de nous dire, il dit à cet homme, Salomon, mais en même temps, cela nous interroge. Dieu est en train de dire, si moi je marche avec Dieu, d'une manière sincère, d'une manière droite, avec mon cœur, non pas avec quelque chose de calculé, mais avec mon cœur, alors je vais t'établir, je vais te poser, tu seras roi chez toi, dans ta propre vie. Tu auras l'autorité de ta propre vie. Je crois que si nous avons ce genre de vie intègre, Dieu va nous établir sur notre trône, à nous. Sur ce que nous vivons, sur ce que nous possédons, sur notre famille. Il nous établira dans tout ce qu'il a prévu de faire pour nous. Ça peut être dans le ministère, ça peut être dans une vocation dans laquelle il nous a appelés, ça peut être dans la communication, ça peut être dans plein de choses, bien entendu. Dans quoi vous êtes placé aujourd'hui ? Alors, si vous agissez avec intégrité, sachez que Dieu vous établira et va vous équiper pour cela. Je crois que trop de gens, trop peu de gens savent ce principe. Beaucoup, malheureusement, l'ignorent. Et souvent, nous essayons par nos propres forces d'obtenir le meilleur. Et pour cela, nous faisons beaucoup d'efforts. Et on se fatigue. Alors, c'est vrai que Dieu peut placer des opportunités dans notre vie, hein, même dans la vie de notre vie de tous les jours. Hein. Mais c'est Dieu qui va les placer. Nous ne sommes pas obligés de les chercher. Et je dis que si Dieu veut que nous puissions saisir ces opportunités, c'est lui qui les a placées devant nous. Et je crois que cela peut être tout à fait conduit par le Saint-Esprit dont nous avons chanté ce matin. C'est Dieu qui établit. Ce n'est pas la force de notre poignet. Ce n'est pas seulement notre désir.
C'est une opportunité.
Mais c'est son esprit. Et c'est pourquoi je redis qu'il est important de prendre la décision de marcher dans l'intégrité, car il n'y a pas vraiment d'autre moyen de vivre. Rappelez-vous, pour Abimélech, c'était une question de vie ou de mort. Dieu nous a appelés. Dieu vous a appelés. Si vous êtes honnête et droit de cœur, dans toutes vos affaires. Parce que je ne suis pas chrétien que le dimanche. Mais je suis chrétien aussi dans la semaine. Et donc dans toutes mes décisions, dans tout ce que j'ai à faire, Dieu veut nous établir. Et rappelons-nous que ce n'est pas par nos propres forces. Cela veut dire peut-être, pour ceux qui travaillent, par exemple, eh bien que je n'ai pas besoin de revendiquer, mais que Dieu va pourvoir à ma propre vie. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de contestataires, beaucoup de gens qui revendiquent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut peut-être pas le faire dans certaines occasions, mais pour nous chrétiens, pour certaines choses, dans le travail, bien, nous n'avons pas besoin de revendiquer. Nous n'avons pas besoin non plus d'essayer de tricher d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas obligés de mentir. Nous ne sommes pas obligés de voler. Nous ne sommes pas obligés non plus de gravir l'échelle sociale par nos propres forces. Dieu donnera. Et je sais de quoi je parle. Simplement, si vous marchez avec droiture, avec intégrité, Dieu, lui, va se charger du reste.
Amen.
Si vous le faites vraiment, Dieu va vous établir. Et personne ne pourra vous détrôner de votre position, parce que c'est Dieu qui aura établi votre trône. Je peux dire combien de fois dans le monde on a essayé de me détrôner. Et le monde n'y est pas arrivé. Et je bénis le Seigneur. Je dirais même dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, combien de fois on a essayé de me détrôner. Et quand je dis détrôner, ça peut être le découragement, ça peut être un certain nombre de choses pour nous détourner de notre appel, de notre voix. Mais quand Dieu nous a établis, il nous a bien établis. Lorsque nous avons la certitude que c'est Dieu qui nous a établis, alors soyez assurés, votre poste est gardé par Dieu. Maintenant, le troisième point que nous allons voir, c'est la protection par l'intégrité. Le psaume 25, on dira deux versets, le verset 2 et le verset 21, qui nous dit « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois point couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet, et puis que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. » Verset 21. L'intégrité nous protège de nos ennemis. Enfin, c'est un peu ce que j'ai abordé il y a quelques instants. Mais nous avons d'autres ennemis, il n'y a pas seulement que le monde. Hein? On peut avoir l'ennemi de la maladie. Hein? On peut avoir comme ennemi aussi des problèmes d'argent. Certains disent, quand mon porte-monnaie est plein, c'est Dieu, quand il est vide, c'est le diable. Hein? Je ne vois pas trop le rapport, mais voilà. En tout cas, une chose est certaine, c'est que lorsqu'on accumule des dettes, eh bien, on est en face d'ennemis, de lourds ravisseurs, et puis en même temps aussi, des ennemis aussi, ça peut être la violence, ça peut être les luttes, ça peut être les haines. En d'autres termes, l'intégrité va nous préserver de tout ce qui est satanique. Hein? Et nous savons que notre ennemi suprême, c'est... Ah non, 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 non. L'ennemi suprême. Bon, c'est pas quand même des questions difficiles, tout cela. Ben, c'est Satan, l'ennemi suprême. Hein? Et oui, bien entendu.
Du contraire de Dieu.
Oui. Et il nous protégera de tout son arsenal de méchanceté, de violence et de choses semblables. Mais je crois que lorsqu'on a choisi, parce que c'est un choix, hein, l'intégrité aussi. Hein. Il y a des gens qui aiment bien naviguer entre deux eaux, quoi. C'est-à-dire dans le compromis. C'est-à-dire qu'ils vont pencher du côté que ça les intéresse. Hein, ou qu'ils ont des intérêts. Hein. Et ils disent après, ben, le Seigneur m'a béni, quoi. Mais ils ne savent pas les conséquences qu'il y a derrière. Oui, l'intégrité nous protégera de nos ennemis. Et cela, c'est important. Et quand on choisit de s'attendre au Seigneur dans l'intégrité, vous pouvez être sûr de bénéficier de sa protection divine. Maintenant, dans ce troisième chapitre-là, nous allons aborder une question. Qu'est-ce que signifie s'attendre au Seigneur? Là, il y a quelque temps, on m'a dit, ben oui, mais qu'est-ce que c'est que s'attendre au Seigneur? Je disais à cette personne-là, ben, je dis, il faut s'attendre au Seigneur, il faut lui faire confiance. mais depuis le temps que ça dure, ben, j'ai dit oui, mais bon. Il faut s'attendre au Seigneur. Dieu ne nous dit pas qu'il va agir à la minute près, au coup de baguette, d'une manière magique. Non. Moi, je crois que s'attendre au Seigneur, c'est permettre d'être, comme on l'a vu tout au début, s'attendre à Dieu, d'être dans sa présence, et permettre à Dieu aussi de nous élever. Hein? De nous élever, de nous promouvoir dans sa vie, dans sa présence, que ce soit quelque chose qui soit pas quelque chose de fictif, pas quelque chose de lointain, mais quelque chose de réel. On a parlé de l'établissement. Je suis établi en Dieu. Hein? Je crois que c'est Éphésiens qui nous dit « Je suis assis en Dieu, en Jésus-Christ. Je suis établi. » Là, vous êtes assis, vous êtes bien, vous ne craignez rien, vous avez peur de rien, vous êtes rassuré. Eh bien, c'est cela. Hein? Quelqu'un qui était en train de traduire le mot foi dans une certaine région d'Afrique, il ne savait pas trop comment traduire le mot foi. Et donc, il a pris une chaise et puis il s'est assis dessus. Il dit, c'est ça la foi. Tout simplement s'asseoir, hein? C'est-à-dire avoir confiance, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la gesticulation, je ne suis pas dans l'activité, je m'assois et je fais confiance à Dieu, je m'élève dans sa présence, hein? C'est-à-dire ma vie, mon être tout entier, cœur, âme, esprit, je suis en Dieu. Et puis, c'est... Moi, je vous dis, tout à l'heure, on l'a souligné, être dans l'intégrité, c'est chasser la peur. Il y a toutes sortes de peurs qui existent, toutes sortes de calamités qui nous entourent. Et Dieu nous protégera. Et dans cette vérité, nous avons dans le psaume 26, au verset 1, qui nous dit « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. » Donc, voyons bien que faire confiance au Seigneur est lié avec le fait de marcher dans l'intégrité. En fait, ces choses sont inséparables. On ne peut pas marcher avec Dieu sans lui faire confiance. Est-ce que vous pouvez marcher avec quelqu'un avec qui vous n'auriez pas confiance ? Vous pourriez lui confier des choses avec qui vous n'auriez pas confiance ? Non. Et donc c'est cela aussi l'intégrité. Hein, ça fait partie de cela. Et on peut marcher dans une vraie intégrité, mais en ayant confiance, une confiance totale dans le Seigneur. Et je disais à cette personne, mais je disais, fais confiance au Seigneur. Marche avec lui. Abandonne-toi entre ses mains. Et il va agir. Eh oui. Il va te garder. Ouais, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour moi. Ben, je dis, depuis que tu le connais, il a quand même fait beaucoup de choses. Hein? Compte les bienfaits de Dieu. Il y a un chant qui nous dit, compte les bienfaits de Dieu et tu verras en l'adorant. Hein, combien le nombre en est grand. Oui, nous devons croire que le Seigneur nous garde et nous gardera dans nos voies, mais si nous marchons, si nous avons choisi de vivre droitement avec lui, si nous ne sommes pas droits, nous n'attendons pas à ce que le Seigneur vienne nous secourir, nous délivrer. Beaucoup de chrétiens veulent prospérer. Beaucoup de chrétiens veulent avoir de la promotion dans leur travail. Beaucoup de chrétiens veulent être protégés. Mais ils ne croient pas réellement à Dieu. Et je disais à cette personne, mais est-ce que tu crois Dieu ? Ça va plus que de croire en Dieu, mais est-ce que tu crois Dieu ? Est-ce que tu crois sa parole ? Eh oui. Alors ils essaient de faire les choses par eux-mêmes. Et ils en font des tonnes. À la fin, ils ne savent même plus où ils en sont tellement ils en ont fait. Eh oui. Mes frères et sœurs, la promesse, elle est très claire. Si vous marchez dans l'intégrité, vous ne déraperez pas. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. C'est Job, chapitre 8, verset 20. Est-ce qu'on va un petit peu plus loin ? On voit un autre point ? Vous dites ? Vous avez 5 minutes encore ? D'accord. Donc on va voir le quatrième point. Soutenu à cause de l'intégrité. Et nous avons dans le psaume 41, au verset 13, ce verset qui nous dit « Tu m'as secouru à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Vous savez, nous passons les uns et les autres par des épreuves, des difficultés. Ce n'est pas toujours facile. Et vous le savez bien. Mais Dieu va vous soutenir en raison de votre intégrité. Soyez persuadés de cela. Peut-être qu'il vous est arrivé... Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Je me suis trouvé dans une situation où mentir, c'était la meilleure chose à faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Alors, je ne vous demande pas ce que vous avez fait. Mais c'est vrai qu'il peut nous arriver que nous soyons dans des situations où on se dit, pour se tirer d'affaire, oh, un petit mensonge. C'est pas grave, un petit mensonge. Ça fait de mal à personne. Puis moi, ça me tire d'une situation inconfortable. Parce que vous avez eu l'impression, tout simplement, que si vous aviez dit la vérité, alors la catastrophe pouvait vous arriver. N'est-ce pas ça? Que vous alliez peut-être en subir les désagréments. Non? Vous êtes parfait, hein? Vous avez toujours dit la vérité?
Non.
Levez la main tous ceux qui ont toujours dit la vérité. Eh oui. Eh oui. Alors c'est vrai que... Oh, un petit mensonge par-ci, par-là. Ça fait pas de mal. Et pas de mal à personne. Mais... Un petit péché. Bon, c'est pas bien grave. C'est à côté d'un grand péché.
Demandez à quand?
Mais, pardon?
On peut demander à quand?
Oui, un petit péché. C'est pas grave, un petit péché.
C'est quand même un péché.
C'est pas grave. Dieu est bon. Dieu est bon. Un petit péché comme cela.
C'est les conséquences.
Mais moi, j'ai pas vu que dans la Bible, il y avait des petits et des grands péchés. Il y avait tout simplement le péché tout court.
Si, si, les petits et les grands péchés.
Qu'il soit grand, gros, fort, il y avait le péché. Et cela fait partie de l'intégrité. Alors c'est vrai que si nous avions dit la vérité, toutes sortes de problèmes auraient surgi. Sans doute dans notre vie, il y aurait eu beaucoup de négativité qui aurait pu en résulter. Nous aurions dû faire face à des conséquences, peut-être financières, j'en sais rien. Nous avons tous, sans exception, eu affaire à ce genre de situation. Mais si vous dites la vérité, le psaume 41, verset 13, nous dit que si vous vous maintenez dans l'intégrité, Dieu vous soutiendra. Et quand vous serez soutenu par Dieu, vous êtes vraiment soutenu par Dieu. Vous pouvez dire la vérité avec confiance, sans regarder aux conséquences apparentes qui pourraient surgir. Dieu fera concourir toutes choses à votre bien. C'est important, cela, dire la vérité. Des fois, on veut paraître ce que nous ne sommes pas. Alors, est-ce que nous devons dire la vérité à tout prix? Ou est-ce que nous pouvons dire n'importe quoi au nom de l'honnêteté? Bien sûr, on n'est pas obligé de tout dire. On peut dire la vérité sans heurter la sensibilité des gens. Il nous faut avoir du tact. Et je me dis que parfois, au milieu du peuple de Dieu, il y a trop d'éléphants dans les magasins de porcelaine. Et souvent, il y a beaucoup de casse. Je m'adresse ce matin aux hommes. Aux hommes mariés, si ce matin votre femme vous a demandé « Mais comment trouves-tu ma nouvelle robe ?» Tu me vois venir ? Ah oui, avec mes gros sabots ? Eh oui. Et que vous pensez ? Ah. C'est la robe la plus affreuse que j'ai vue.
Mais autre manière de le dire, hein.
Ben oui, exactement. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire?
Oh, c'est très bien, ça.
Tu sais, ma chérie, je t'aime bien, hein. Oui, oui, c'est ce qu'on va lui dire. Oui, oui. Mais je t'aime bien plus toi que ta robe. Hein? Ah, voilà. Tu es la plus belle qui soit au monde. Mais en fin de compte, j'ose te dire que j'aime pas ta robe. Et oui, il faut sourire. Hein. Oui, il y a le moyen de dire les choses, quoi. Hein? Il y a des gens qui disent, moi je dis toujours la vérité. Et puis ils foncent dedans, et puis bam! Hein? Au lieu de que ça soit une bénédiction, c'est, j'allais dire, une malédiction pour celui qui la prend en pleine figure. Oui, il y a toujours moyen de dire les choses sans heurter la sensibilité des gens. Et c'est vrai qu'en voulant être droit, eh bien, des fois, nos paroles peuvent être des flèches acérées qui ont percé le cœur de beaucoup de gens. Une personne intègre, c'est une personne qui est à l'écoute de Dieu, bien entendu, qui demeure dans sa présence, dans sa divine présence. Celui qui est dans sa présence est sous sa protection. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu veille sur lui. L'attention de Dieu est permanente. Et j'ai envie de dire ce matin, mes frères et sœurs, je pourrais dire, soyez honnêtes, mais j'ai envie de dire autrement, soyons honnêtes. Que Dieu vous bénisse. On verra la suite dimanche prochain. Gloire à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde. Il nous entraîne, j'allais dire, sur un chemin. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Vous aurez sans doute l'occasion de réécouter cette parole sur Internet, sur notre site. Hein, s'il y a des choses qui vous ont échappé, hein, et que vous pouvez reprendre. C'est important. Que Dieu soit béni. Seigneur, tu nous fais la grâce ce matin d'entendre ta parole. Seigneur, tu nous dis les choses avec force et je veux croire que le Saint-Esprit nous aide dans tout cela. Oui, je pense que chacun de nous avons envie d'être intègre. Mais parfois, les situations se présentent où peut-être nous avons dérapé. Tu le sais, tu ne nous condamnes pas. Nous sommes des hommes et des femmes qui savent se placer devant toi, qui savent écouter aussi ce que tu nous dis. Tu nous dis d'avoir une oreille attentive. Parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous parles le jour, mais tu nous parles la nuit aussi. Seigneur, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux ou sourds à ta parole, afin que nous puissions marcher dans l'intégrité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.